Radio & Co.
Le podcast qui fait la différence.
Le podcast qui fait la différence.
Le podcast qui fait la différence. Différence.
Radio & Co.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Radio & Co, le podcast qui fait la différence. Thomas au micro, je suis accompagné aujourd'hui d'Olivier. Bonjour Olivier.
Bonjour Thomas.
Je suis accompagné aussi de Luc.
Bonjour Thomas.
Et de Sébastien au platine. Et aujourd'hui, nous allons interviewer Romain. Bonjour Romain.
Bonjour à tous.
Donc Romain, pour le rappeler, le coprésident de Café & Co. Et il va nous parler aujourd'hui du foot fauteuil.
Oui, on m'a invité pour vous expliquer, vous faire découvrir ce que je pratique depuis des années, le foot fauteuil.
Alors est-ce que, pour commencer, tu pourrais te présenter, Romain, s'il te plaît?
Alors moi j'ai différentes casquettes. Je suis président de Cyberdicap, co-président un peu comme ici, de Cyberdicap, qui est une asso à Ramonville d'informatique, où j'accompagne des gens de manière individuelle à l'utilisation de l'outil informatique et à la sensibilisation des dangers d'Internet et tout type de conseils de manière personnalisée.
Très bien.
Et je suis aussi co-président donc, de Café & Co avec Sébastien, qui est au platine, comme on dit. et donc voilà, c'est un peu le deuxième projet beaucoup plus grand qui est né de la première idée de Cyberhandicap, en fait, en beaucoup plus gros et en beaucoup plus diversifié.
Tu veux dire qu'il y a un lien entre Cyberhandicap et Café & Co?
Ouais, il y a un lien, c'est qu'on a créé les deux assos ensemble avec Sébastien et David Kroll à l'époque. Et en fait, le lien que j'ai envie d'y mettre, c'était une première idée du bénévolat avec des personnes en situation de handicap. Et toujours dans cette idée d'une asso ouverte à tous. Sauf que c'était orienté purement et simplement sur le numérique et la fracture du numérique.
D'accord. Voilà.
L'idée, c'était de lutter contre la fracture du numérique et on s'arrêtait à ça. Café & Co, on va beaucoup plus loin. Mais on est toujours dans cette idée de lien et de partage de compétences, en fait. La complexité de ce genre de fauteuil pour la discipline, le Strike Force, c'est qu'il est très, très, très sensible et très nerveux. Et donc, il y a une vraie pratique et il y a un vrai apprentissage à avoir dans l'utilisation de ce fauteuil. Et en fait, ce que j'ai envie de dire souvent, et ce qu'on fait nous en tant que joueurs de fauteuil, c'est qu'autant que possible, on va faire essayer aux gens. Parce qu'en fait, nous voir jouer, ben c'est joli. Hein. Mais en fait, ils ne se rendent pas compte de la complexité quand on regarde. Alors que quand on monte dessus, en fait, pour être très simple, une personne en situation de handicap, il faut qu'elle soit automatiquement attachée au niveau du torse, au niveau des jambes, parce que souvent il y a un manque de force et donc si on n'est pas attaché, il y a tout qui vole. J'ai envie de dire, on bouge à droite, à gauche. J'ai fait monter des gens qui sont arrivés un peu tranquilles, tu vois, plein été, claquettes. Il a fait son petit tour et on lui a fait tourner sur place. Les claquettes, elles ont volé, les jambes, elles sont parties à droite. Et pourtant, c'était un valide qui avait toute sa force et tout ça. Donc en fait, il y a une vraie force centrifuge qu'il faut maîtriser. Et puis après, il faut avoir l'habitude du fauteuil parce que j'aurais tendance à dire qu'on a une sensation un peu comme dans un manège où quand on n'a pas l'habitude et qu'on perd le point de fixation au niveau du regard, on peut vite avoir la tête qui tourne ou des trucs comme ça. Voilà, donc c'est réellement un fauteuil spécifique et précis et puissant. Et bon, il faut savoir que ça coûte particulièrement cher ce genre de matériel, c'est 11 000 euros pièce, sachant que c'est une discipline où on joue à 4 minimum par équipe, donc une équipe type c'est 40 000 euros de fauteuil à peu près. Donc voyez un peu l'idée, on est entre 4 pour une équipe type, il y a souvent deux remplaçants, donc c'est une discipline, j'ai envie de dire, malheureusement de luxe.
Combien de temps t'as eu T'as eu du temps à t'entraîner?
Alors, j'ai débuté, je devais avoir dans les 14-15 ans. Parce qu'en fait, à l'époque, j'arrivais encore à marcher, en déambulateur et tout ça. Et en fait, cette discipline, elle est aujourd'hui encore plus catégorisée qu'avant, c'est-à-dire qu'on la priorise aux personnes en situation de handicap lourd qui ne peuvent pas faire d'autres disciplines. Si par exemple quelqu'un est capable de faire du basket fauteuil, c'est-à-dire qu'il a la force de manipuler un fauteuil manuel, il ne pourra pas faire du foot fauteuil. Parce qu'en fait, notre priorité, c'est de dire que cette discipline doit être ouverte à d'autres personnes qui ne peuvent pas faire d'autres sports collectifs. Voilà. Et donc, dans cet esprit-là, quand on fait du foot fauteuil, on est aujourd'hui catégorisé, on est classifié par catégorie de handicap. Il y a trois barèmes, PF1, PF2 et PF3. Donc si on fait simplement le PF3, il n'a pas le droit de jouer en international et bientôt en haut niveau de national, enfin en France, parce qu'en fait, il peut faire d'autres choses. Il est trop léger en termes de handicap. PF2, ça va être les personnes comme moi qui sont capables de bouger, faire leur transfert. Je grossis un peu le trait, mais c'est pour simplifier. Qui sont capables de faire leur transfert, etc. Et PF1, c'est les handicaps lourds qui sont vraiment pas capables de faire autre chose, qui ont besoin d'aide pour les transferts, le maintien de la tête, etc. On les installe de manière précise. Je pense beaucoup à la myopathie, par exemple. Ce sont des PF1. Et ils peuvent être classifiés au départ PF2 et ils deviendront PF1 par l'évolution de la maladie. Et donc, en fait, cette classification est pour moi primordiale parce que c'est malheureux, ça laisse certaines personnes sur le carreau. Mais d'un autre côté, une équipe type, c'est 4 joueurs et tu dois obligatoirement avoir 2 PF1 sur un terrain. La personne qui est un peu plus lourdement handicapée, qu'elle reste sur le banc pour que, en fait, on puisse gagner. Il y avait certains effectifs qui pouvaient avoir tendance à mettre les gens en difficulté sur le banc pour gagner, toujours gagner. Et du coup, il a fallu repenser ça et maintenant les équipes se sont adaptées et ont appris à gagner avec tout type de pathologie. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en place ces classifications.
Une question. Vous shootez avec le pare-choc ?
Oui.
D'accord.
On shoot avec un... Alors il y a un gros pare-choc, toujours pareil, fait exprès. En fait, on shoot soit en marche arrière et on tourne, soit on tourne directement, mais en fait, notre repère, c'est nos pieds, en gros. C'est le prolongement de nos pieds, le pare-choc. Voilà, c'est cette idée-là. Par contre, le fait qu'on est arrivé avec des fauteuils vachement plus puissants aujourd'hui fait qu'on a été obligé de repenser la discipline parce qu'on a modifié les ballons, on a créé un ballon exprès parce qu'à l'époque, on jouait avec un vrai ballon de basket. Le problème, c'est qu'à amener la puissance avec ce ballon de basket faisait que le ballon, il décollait. Et ça devenait dangereux parce que ça ne restait pas au sol. Donc on a créé un ballon beaucoup plus lourd pour être sûr qu'il reste un maximum au sol et que personne ne le prenne dans la tête ou ailleurs.
Et les fauteuils, ils sont électriques ?
Alors oui, c'est pour ça que c'est pour des pathologies lourdes et que c'est privatisé, entre guillemets, priorisé, on va dire. C'est parce que c'est une discipline faite par fauteuil électrique, c'est la seule. Au jour d'aujourd'hui, une discipline collective en foot électrique, il n'y a que le foot-fauteuil.
D'accord.
Voilà.
L'électricité rentre dans quel domaine, en quoi ça joue dans le foot-fauteuil, le fait que ce soit électrique ?
C'est là aussi, on va rentrer dans les petits détails, mais en gros, aujourd'hui, on a uniformisé avec l'arrivée du Strike Force. Toutes les équipes quasiment de haut niveau ont que des Strike Force. Avant, on avait plein de modèles différents, ce qui pouvait engendrer des petites difficultés pour uniformiser pour pas qu'il y ait un avantagé par rapport à l'autre au niveau mécanique. Parce que là, on parle bien de mécanique, il y a des moteurs, il y a de l'électronique, il y a du programme, voilà. Et donc, en fait, le fauteuil est chargé tous les soirs, en fait, chaque fois qu'on joue. Et en fait, par rapport à la programmation, je parle de programmation parce qu'en fait, on peut programmer dans le boîtier avec un petit boîtier qu'on branche dessus la limite de la vitesse. C'est-à-dire que tous les fauteuils, tous les joueurs qui vont jouer sont contrôlés avant les matchs pour faire 7 mètres, pour faire 10 mètres en 7 secondes. Et si on est en dessous de ça, on doit baisser la vitesse avec ce boîtier pour être à peu près équitable à ce niveau-là. Voilà. Donc la marche avant est contrôlée, la marche arrière aussi à l'international pour que tout le monde soit au même niveau à ce niveau-là.
On joue pas avec les bras alors ?
Pas du tout.
D'accord.
On joue avec la main, on joue avec la tête, on joue avec la concentration, on joue avec... Alors, on va me dire, il y en a souvent qui disent que, entre guillemets, c'est pas physique. Alors, c'est pas physique dans le plan physique tel qu'on l'entend. On fait pas d'effort physique. On va pas forcer. Au départ. Mais si on considère qu'un match, c'est 2 fois 20 minutes, ça fait 40 minutes. Et que, comme c'est beaucoup de choses à faire en termes de déplacement, d'organisation, quand on va quelque part, on fait 3 matchs maximum par jour. Donc, on peut faire 4 matchs par week-end. Et donc, arrivé à la fin du week-end, je vous garantis à la fin de la journée qu'on a fait un effort physique de concentration qui devient du coup un effort physique à la fin.
Sport un peu cérébral, quoi.
C'est cérébral au départ. Ça demande de la concentration, de l'anticipation, du regard, parce qu'en fait, on est quand même 2 équipes de 4, donc ça fait 8 fauteuils sur un terrain de basket. Donc c'est grand, et en même temps quand on voit la taille d'un fauteuil, quand on en met 8 sur un terrain, ben, on a vite fait de se marcher dessus. C'est pour ça qu'il y a des règles qui font qu'on n'a pas le droit, par exemple, d'attaquer à 2 attaquants contre un défenseur. Il faut qu'il y ait 3 mètres de rayon entre 2 attaquants pour obliger l'attaquant à faire la passe à l'autre attaquant. L'idée, c'est de garder cette fluidité et cette vitesse. Voilà. Et donc, on a du mal à le voir dans le bas niveau. Mais si vous regardez des matchs de haut niveau, vous verrez beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de largeur et beaucoup plus de profondeur. Et donc, tout ça, ça reste accessible au jour d'aujourd'hui. Quasiment tous les matchs de foot-fauteuil de haut niveau sont visibles sur YouTube. Ça s'appelle Foot-Fauteuil France. Et en fait, vous pouvez voir plein de matchs de toutes les grosses équipes de foot-fauteuil de Ligue 1, sachant qu'aujourd'hui, on a le privilège d'avoir une équipe de France qui vient de décrocher au mois d'octobre dernier son titre de champion du monde pour la 2e fois consécutive. Donc on a une belle réputation dans cette discipline. Voilà.
Tu as des difficultés ou tu as eu des difficultés ?
Bah alors, mes difficultés, on va revenir... quand même sur les difficultés liées au handicap. Les miennes, en tout cas, elles sont présentes sur mes repères spatiaux. En fait, si par exemple, moi je suis un défenseur. Je suis un très bon défenseur, mais je ne suis pas polyvalent. Parce que, si vous voulez, si je me retrouve attaquant, j'ai le ballon qui vient derrière moi. Et du coup, je n'ai pas le repère sur ce ballon. Et donc, ça me complexifie vachement plus le jeu. Le fait d'être défenseur fait que le ballon vienne devant moi et que j'ai beaucoup plus de facilité à me repérer par rapport au ballon et aux joueurs et à anticiper ce que je dois faire.
C'est une question de vision ?
C'est une question de vision et de pathologie. Je suis IMC et en fait, dans cette pathologie, les repères spatiaux sont plus compliqués. Mais en fait, cette discipline, en dehors de ça, m'a beaucoup aidé dans ces repères spatiaux parce que du coup, je les ai travaillés. Tout au long du temps où j'ai joué au foot-fauteuil. Et du coup, ça m'a aidé à me repérer dans une ville. Voilà, c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans d'autres activités qui m'ont aidé à améliorer ça, en fait. Mais par exemple, il y a des joueurs qui n'ont pas cette pathologie comme la mienne, qui n'ont pas ces problématiques-là, qui en ont d'autres et qui ont comblé différemment, mais ils n'ont pas ces problèmes d'anticipation et de vision, en fait. Voilà.
Et est-ce qu'il y a des règles similaires au foot valide, comme par exemple le hors-jeu ? Est-ce qu'il existe dans le foot fauteuil ?
Il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu, mais par contre, il n'y a pas de lob. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que d'un côté, il n'y a pas de hors-jeu, mais pour arriver à faire une passe longue, il faut quand même être bon. C'est-à-dire que normalement, un bon défenseur, il ne s'inquiète pas du hors-jeu parce qu'en fait, il doit pouvoir anticiper la vitesse de frappe et du coup... il n'y a pas besoin de hors-jeu. Par contre, si on est malin et que l'autre ne regarde pas et pas concentré, en fait, on peut jouer avec ça. Si un gardien monte un peu trop haut, trop vite, il n'y a pas de hors-jeu, donc tu peux directement tirer n'importe où que tu sois. Même si c'est une passe longue pour un joueur qui est derrière lui, c'est totalement légal. Le gardien est un goal qui a le droit d'être totalement volant. D'ailleurs, dans mon équipe, en fonction du handicap et des joueurs qu'on avait certaines années, on a fait des goals volants ou pas. C'est-à-dire que moi, j'avais la chance d'avoir des internationaux avec moi. Et donc, on s'est adapté aux difficultés et aux qualités de chacun. Et moi, ma grosse qualité, c'était de défendre, comme je l'ai dit. Donc, en fait, ils ont pris un gardien. On avait le gardien de l'équipe de France avec nous, qui était aussi assez bon devant. Et donc, il faisait, quand lui partait pour faire l'attaque, moi, j'étais libéro, en fait. Et donc, c'était cette idée de toujours être en lien ensemble. Quand lui montait, je descendais. Quand il reprenait sa place, je devais monter un peu plus haut. Et donc, il y a cette idée de stratégie qui peut être adaptée à tout moment. Le seul truc, c'est que dans le foot fauteuil, toujours dans l'idée de fluidité, une surface de réparation, on peut défendre avec le gardien et un seul défenseur. S'il y a un deuxième défenseur qui met la roue dans la surface de réparation, il y a faute. Parce que sinon, c'était pour éviter que tout le monde arrive défendre et tout le monde arrive en masse et crée des chocs et tout ça. Donc il y a cette notion d'espace, de fluidité et de ne pas faire de choc avec l'autre, en fait. Toujours dans la limite de la sécurité de la personne quand même, parce que ça reste important. Donc on ne peut pas, par exemple, je peux arriver doucement et pousser sur le pare-choc de l'autre. Si je suis devant le pare-choc, si je suis à la limite du pare-choc à l'avant, si je touche sa roue arrière, par exemple, c'est dangereux pour le fauteuil, c'est dangereux pour la chute, là, il y a faute. Donc il y a cette notion-là de où est-ce que je vais, où est-ce que j'ai le droit de pousser, à quel moment, si j'y vais trop fort ou pas. Voilà, c'est toute cette équilibre qu'il faut arriver à trouver. Et en fait, en très haut niveau, ça se gère très, très bien.
Il y a un arbitre, alors.
Ah oui, ils sont trois arbitres.
Trois arbitres.
Il y a un arbitre central, il y a deux arbitres de touche, et en fait, c'est comme le foot normal, il y a des touches, des corners et des coups francs. Pas la barre, hein. Et pourtant, il y a des fois, ça m'aurait bien servi.
Et il y a beaucoup de buts qui se mettent dans une partie.
Alors, par rapport à du foot normal, moi qui suis un grand passionné de foot, ça va beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'il y a très peu de temps mort. Et quand on dit que ça fait 20 minutes, c'est quasiment 20 minutes de jeu. Sauf s'il y a un problème mécanique et problème d'attache ou de choses comme ça. La sécurité du joueur passe en premier lieu. Mais sinon, il n'y a quasiment jamais d'arrêt. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant et c'est bien que j'ai la parole là-dessus. Parce que, en fait, la difficulté du sport en général et du handisport en général, c'est de se faire connaître et de faire venir du monde. Quand il y a les déplacements et les choses comme ça. Et en fait, ce qui est difficile, c'est qu'au départ, on a du mal à les faire venir, les gens. Mais ceux qui ont l'audace, j'ai envie de dire, de pousser la porte, généralement revenaient chaque année. Parce qu'ils y trouvaient leur compte. Et parce que moi, j'ai envie de dire, il faut éduquer aussi beaucoup, très jeunes. Nous, on allait chercher les jeunes. Parce qu'en fait, c'est les jeunes qui poussaient leurs parents à venir et qui... Ça marchait comme ça, en fait. Si on a le jeune, on a les parents et puis après, on y arrivait comme ça. Et puis nous, moi, je suis... en termes de palmarès, j'étais sur une grosse équipe. On est 6 ou 7 fois, je ne sais plus, champion de France, Coupe de France et Coupe d'Europe. En gros, la Ligue des champions, j'ai gagné une fois et j'ai été vice-champion une autre fois. Donc, on avait un gros palmarès. Et du coup, quand les palmarès est venu, après, la ville nous a soutenus, toujours pareil, un peu ce que j'ai connu à Café & Co. Au départ, le projet, c'est compliqué. Puis après, quand ça marche, les gens viennent.
Un jour, tu pourrais nous montrer un jour, comme toujours, en fait, fratère.
Oui, ça peut s'organiser, mais ce ne sera pas avec Hoche. Mais il y a moyen que je retrouve le jour où je signe avec une autre équipe. Peut-être j'en ai une en tête, mais on verra, ce n'est pas fait encore. Mais... Il y a moyen de faire des démos et puis on peut vous inviter à un match et puis il n'y a pas de photo, il n'y a pas photo, on peut créer un partenariat, ça peut faire l'objet d'une sortie à Café & Co.
Tu as parlé de Hoche, tu jouais à Hoche ?
Oui, je jouais à Hoche.
D'accord.
J'ai joué à Hoche parce que c'est mon club formateur. J'ai joué quelques années à Ramonville, à Toulouse, pendant que j'étais à Pierre Froment. Et donc, mais à un moment donné, on m'a proposé de revenir. C'était mes copains d'enfance. Donc, c'est, C'est un club hyper familial, donc je suis revenu sans hésiter. Puis en plus, eux, ils étaient déjà en haut niveau, donc ça se tentait. Et j'avais envie de découvrir le haut niveau. J'ai pas été déçu et voilà, ça m'a fait de super souvenirs. J'ai quand même. On a parcouru la France plusieurs fois par an parce que pour le coup, dans le haut niveau, les clubs étaient souvent dans le nord, tout ça. Donc en fait, dans le sud, il devait y avoir un club, quoi. Donc on n'avait pas beaucoup de matchs dans le sud. Il y en avait un en Auch, il y en avait à Montpellier et à l'époque, il y en avait un à Toulouse. Et il n'y est plus aujourd'hui. Mais voilà, donc on a fait Villeneuve-d'Ascq, Brest, Paris. Voilà, ça vous donne un peu l'idée. C'était bien fatigant en termes de voyage, mais c'était cool parce que la Coupe d'Europe que je vous parlais, j'ai quand même été grâce à ça deux fois au Danemark. Je pense que si je n'avais pas eu la discipline, je ne suis pas sûr d'être allé comme ça au Danemark.
Ouais, j'imagine.
Voilà, donc comme ont tendance à dire mes parents, c'est grâce à cette discipline entre autres et aux activités, parfois on a fait des choses qu'on n'aurait pas pensé faire.
Ouais, tu n'as pas répondu à ma question, Romain. Là. Vous marquez beaucoup de buts dans un match ?
Ah oui, c'est vrai. sur une équipe équilibrée, j'ai envie de dire nos rivaux du moment, c'était très serré. Tu pouvais avoir 2-1, 2-2, voilà. Après, sur des différents niveaux, oui, on peut. Quand tu as une équipe un peu. Comme en Ligue 1, en fait. Quand tu as une équipe un peu en milieu de tableau ou bas de tableau, oui, tu peux voir jusqu'à 10, 12 buts. Et en moyenne, tu es sur 5. En moyenne, tu es sur 5, 6, 7 buts.
D'accord.
De toute façon, le but de toutes les règles que j'ai énoncées auparavant, c'était de créer du spectacle et d'encourager le but, en fait. Hein. C'est d'encourager les attaques. Mais on a la spécificité en France d'avoir de très très bonnes défenses, en général. On est très solide. Donc on ne prend pas tant de buts quand l'équipe est de haut niveau, tu ne mets pas tant de buts que ça.
Et toi, tu marquais des buts ?
Ah non, moi, je marquais très peu de buts. Si j'en marquais un ou deux par an. En même temps, c'était compliqué quand tu es quasiment gardien de but d'aller marquer un but. Donc on me faisait un petit cadeau de temps en temps. Je suis un fan de l'OM et moi, j'adorais Drogba.
Moi, j'aurais une question piège.
Ah, Thierry, bonjour.
Bonjour. Alors, je ne sais pas si toutefois ça a été une question qui a été posée, puisque je viens juste d'arriver, mais ça va être plusieurs questions.
C'est un roman.
Quel est le poste que tu jouais ou que tu joues ?
J'étais défenseur.
Défenseur ?
Ouais, dernier défenseur.
Waouh.
Dans ma vie, j'étais défenseur ou gardien.
Ah, d'accord. Et comment, personnellement, appréciais-tu ce poste et comment te différenciais-tu par rapport à d'autres personnes et surtout à tels que d'autres stars au niveau du monde du football ?
Alors, on va la prendre dans l'ordre. La première question, elle est très simple. Mon poste de défenseur, j'adorais ça. Je crois que j'adore marquer des buts quand j'avais l'opportunité, mais je préfère être défenseur parce que ça me donnait l'opportunité d'avoir des duels et j'adorais les duels. Voilà, c'était mon petit plaisir quand... tu sais que t'es dernier défenseur et que c'est toi qui empêches le but, c'est quand même, c'est pour moi quasi pareil que de marquer un but.
C'est gratifiant.
Voilà, c'est pareil, c'est gratifiant et ça donne un petit plaisir qui est quand même un peu différent. Après, l'autre partie de ta question, je t'avouerai que je ne l'ai pas bien compris.
Eh bien, je le reformule. À qui éventuellement tu te qualifierais comme un...
Ah, par rapport à un joueur de foot.
Voilà.
On va dire, à la grande époque, on va dire Varane. Le Varane du Real Madrid.
Varane. Waouh.
Celui du Real Madrid. Hein.
Ah ouais.
Est-ce que le gardien a le droit d'utiliser les mains?
Je pense que tu as le gros bouquet là, et au bout de ton pied là. Et c'est pas une fleur.
Hein? Non, mais tu sais, il faut des fois il faut être modeste. Après, il faut être réaliste. Thomas, je réponds à ta question. Je te confirme que nous n'avons aucun droit d'utiliser les mains.
Y compris le gardien.
Y compris le gardien. Le premier qui touchait le ballon avec les mains prenait carton rouge direct.
Ah, d'accord.
Il y a aussi une autre règle, c'est que, en fait, quand t'es gardien de but, tu as le droit de passer les roues derrière la ligne de but pour empêcher le ballon de franchir la ligne. Par contre, le défenseur, s'il passait les quatre roues derrière la ligne, et il prend carton rouge aussi. Il a D'accord. le droit de défendre, mais il doit garder une roue sur le terrain.
D'accord.
Et pardon, excuse-moi, ou excuse les personnes qui sont autour et qui voulaient s'apprêter de dire une question, et de poser une question, pardon.
Pose la tienne.
Alors, est-ce que les cages et les autres parties du terrain sont totalement les mêmes que sur un terrain de foot habituel?
Ça, c'est une bonne question et personne ne me l'avait posée encore.
Ah, mais tu vois, il en fallait une, tu vois.
Donc, tu vois,
et comme quoi, et j'arrive au bon moment.
Mais je vais t'y répondre. la cage de foot fauteuil, elle fait 6 mètres de large.
Waouh!
Pourquoi? Parce qu'on défendait à deux fauteuils. Et comme le fauteuil est imposant, il fallait quand même donner l'opportunité à l'attaquant de marquer. Et donc, ça fait 6 mètres de large. Voilà.
6 mètres de large. Et combien de profondeur?
Il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de filet.
Ah, d'accord.
Et en fait, tu passes la ligne et c'est fini.
J'ai l'impression. Est-ce que tu es la seule? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la famille qui joue du foot?
Dans ma famille?
Du sport, oui.
Dans ma famille?
Oui.
Dans ma famille, mon frère, qui est en situation de handicap aussi, a joué au foot fauteuil à Carlabail, dans son foyer de vie à l'époque. Okay. Ouais. Mais dans les structures du milieu du handicap, dans le handisport en général, cette discipline est la discipline la plus licenciée de France. Hein. C'est une discipline qui est très recherchée, qui est très compliquée à trouver parce que dans des clubs indépendants, comme je disais, c'est compliqué de créer une équipe parce qu'il faut un budget pharaonique. Voilà. Dans les années où on était en Coupe d'Europe et où on avait la Coupe d'Europe à financer, on était sur des budgets qui étaient presque de 100 000 euros parce que tu avais 50 000 pour aller en Europe. Et après, tu avais à peu près autant pour faire une saison en France. Enfin, quand tu ajoutes l'achat des fauteuils. Après, un peu moins si tu as les fauteuils et que c'est une année où tu n'as pas de dépenses matérielles. Mais sinon, c'était un budget, quoi. Si, pour vous donner une idée, quand on partait au foot fauteuil, on prenait un bus adapté qu'on louait et ça nous faisait environ 3000 euros le week-end.
Wow!
Et quels sont les financeurs pour le foot fauteuil?
Il y a pas. Alors, c'est une très bonne question. Et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on est très peu financé. Puisque, enfin, j'ai envie de dire par des trucs officiels. Parce qu'on n'est pas un sport paralympique encore. Et que c'est compliqué de le devenir. Parce qu'il y a beaucoup de logistique. Quand on. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand on part si par exemple, quand ils sont partis à la Coupe du Monde, ils ont voulu prendre. Donc, ils ont pris leur fauteuil de ville. Parce qu'ils en ont besoin pour la vie de tous les jours. Et ils ont pris leur fauteuil de foot fauteuil. Ça veut dire que c'était une équipe de 8 personnes, donc il y avait 16 fauteuils à transporter en Floride, par avion. Voilà. Ça vous donne un peu. Et aujourd'hui, la complexité des transports, croyez-moi, en France et ailleurs d'ailleurs, c'est très compliqué. L'aviation, c'est un fauteuil ou deux par avion. Enfin voilà, c'est compliqué. Ça veut dire qu'on prend je ne sais pas combien d'avions pour pouvoir... à rapatrier tout ça, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on n'est pas éligible aux Paralympiques. Il fallait créer le contrôle antidopage, il faut créer plein de choses, il faut que tu aies un nombre de pays qui soit assez nombreux pour que ce soit diversifié. Enfin, le critère des CIO, c'est très 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 compliqué, et en fait le problème c'est que tant que t'es pas ça, t'as pas des subventions de sport de haut niveau. Donc en fait, bah, souvent les clubs, c'est la ville, c'est le département, c'est la région, autant que possible, mais ça dépend où tu vis parce qu'ils n'ont pas tous le même budget. Et puis c'était souvent pour nous des appels aux dons, des lotos, des repas. Voilà, un club indépendant, c'est ça. Et donc ça veut dire aussi beaucoup de bénévoles et il faut remercier tous ces gens-là qui travaillent dans l'ombre pour pouvoir faire vivre ça.
Moi, j'aurais une question sur les Jeux paralympiques et les Jeux olympiques. Est-ce que, comme moi, tu penses que les Jeux paralympiques devraient être avant les Jeux olympiques au lieu d'être après ?
Tu sais quoi ? Pour une fois, je vais te poser une question. J'ai envie de te dire pourquoi tu aurais envie que ce soit avant ?
Bah parce que les Jeux paralympiques sont moins populaires et puis ça serait une bonne façon de se mettre l'eau à la bouche en attendant les Jeux olympiques, de regarder les Jeux paralympiques. Je pense que ça aurait plus de succès si c'était avant.
Je pense que, j'avoue que j'y ai jamais réfléchi, je pense que tu tiens une bonne théorie. Par contre, je pense quand même que malgré la difficulté qu'on a à faire connaître les Paralympiques, je trouve que depuis quelques années, on a fait beaucoup de progrès. Je pense que France Télévisions a fait beaucoup d'efforts pour diffuser ces choses-là. Je suis très content de voir que ça évolue au moins à ce niveau-là dans le bon sens. Je pense qu'il n'y a pas longtemps, je crois que c'est Macron, et pour une fois qu'il prend une bonne décision, on peut le dire. Il avait décidé de donner la même prime aux Paralympiques qu'aux Jeux Olympiques, aux gagnants des médailles d'or, etc. Donc ça avance lentement, c'est clair et net, mais ça avance et dans le bon sens, donc pourvu que ça dure et que France Télévisions continue et que les gens regardent et que les gens s'intéressent et que tout soit connu et tout ça. Mais j'ai envie de te dire aussi que certains sports olympiques sont très peu connus et les athlètes ont de grosses difficultés à financer leur participation aux Jeux Olympiques. Donc on est dans la même difficulté que les Paralympiques. Et là, en l'occurrence, moi je vais vous dire pour le foot fauteuil, entre autres, pour moi, la grosse évolution notable qu'il faudrait faire évoluer, c'est que le foot fauteuil, entre guillemets, mais ça là c'est mon avis personnel, quitte le handisport et deviennent une alliance avec la Fédération Française de Football. Et qu'il y ait des liens entre les clubs de football officiels et les clubs de foot fauteuil de chaque ville. Et que je tiens quand même à dire que Saint-Étienne, par exemple, le club de Saint-Étienne a financé les fauteuils du foot fauteuil de Saint-Étienne. Et qu'ils ont un budget chaque année pour l'entretien, l'achat et pour les déplacements fait par Saint-Étienne. Et que je crois que l'avenir de... Et on est toujours dans cette idée d'inclusion, et là je reviens un peu à ce qu'on fait à Café & Co. Je crois que l'avenir, c'est de créer des liens entre guillemets, le monde du handicap et le monde normal. Même si moi je déteste dire ça, la réalité, c'est que pour qu'un jour il n'y ait plus de monde, il faut créer des liens pour qu'il y ait un seul et unique monde. Et à travers le sport, on peut faire ça. On peut faire ça. Et le foot fauteuil devrait appartenir, enfin être en lien direct avec la Fédération Française de Football. Ils ont tellement d'argent à nous donner qu'ils peuvent être un peu généreux.
Et t'espères jouer jusqu'à quel âge ?
Alors écoute, il n'y a pas d'interdiction. Donc je jouerai tant que je prendrai du plaisir. Et tant que j'aurai du temps à donner à cette discipline, puisque il faut le dire, ça prend du temps, ça prend des week-ends, ça prend beaucoup de temps en termes d'entraînement si tu veux garder un certain niveau. Donc je jouerai tant que j'en ai envie et tant que je prends du plaisir. Voilà. Après j'arrêterai quand j'en aurai marre. Mais j'ai pas de limite d'âge.
Tu as quel âge pour l'instant ?
Oh, bonne question. J'ai 34 ans.
D'accord.
Tu as fait combien de temps de foot fauteuil et est-ce que tu as toujours l'opportunité d'aller voir encore, et si ce n'est pour longtemps, toujours tout un tas de matchs ?
Alors,
et des matchs, c'est une chose, mais des matchs très passionnés, autant passionnants que ce que l'on pourrait le penser, internationaux.
Alors,
si oui, aurais-tu la possibilité de nous inviter ou je ne sais pas.
Ah, d'accord.
Pourquoi pas,
hein. Alors, je n'ai pas d'invitation à donner, c'est gratuit.
Ah, ben alors ça va, c'est mieux.
Donc, à partir du moment où tu es dans le coin et qu'il y a un match, tu peux y aller. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et pour le reste des questions, je te fais un petit replay parce que celle-là, j'avais déjà répondu. mais en termes de vision, si je suis dans le coin, je vais aller voir les matchs physiquement. Sinon, je les regarde sur YouTube. Je les regarde sur YouTube. Et ensuite, il faut que je... Tant que j'aurai la passion, je continuerai à écouter, à regarder, à faire. Mais je ne me mets pas de pression, quoi que ce soit, continuer la discipline ou la regarder. J'en ai envie, je le fais. J'en ai pas envie, je fais autre chose.
Y a-t-il une application à rentrer dans le téléphone portable pour essayer de...
Il faut regarder Foot Fauteuil France sur YouTube. Foot Fauteuil France, ouais. Sur YouTube et sur...
Okay,
et ils ont le site internet et tu retrouves toutes les infos.
Merci beaucoup,
et ben merci
monsieur
à toute l'équipe. L'émission touche désormais à sa fin. Donc merci beaucoup, Romain.
Avec un grand plaisir, c'était un plaisir.
Et merci à toute l'équipe.
Merci.
Avec un grand plaisir.
Jingle Radio.
Radio Enco.
Le podcast qui fait la différence.
Le podcast qui fait la différence.
Le podcast qui fait la différence. Différence.
Radio Enco.